France Inter.
To be or not to be, not to be.
Très cher développeur de jeux vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je suis un très grand fan de votre travail. Je joue aux jeux vidéo depuis mes 15 ans et je ne compte pas m'arrêter. Au fil des ans, j'ai vu vos jeux devenir de plus en plus impressionnants graphiquement. Aujourd'hui, on voit carrément les taches de rousseur ou de vieillesse sur la peau de vos personnages. Chaque brin d'herbe est animé indépendamment, chaque flaque d'eau est sujet à des reflets de toute beauté. Vraiment, je vous le dis, le jeu vidéo en 2025, qu'est-ce que c'est beau! Ça se sent que vous avez dépensé sans compter. Des équipes de plus de 500 personnes, des budgets de communication toujours plus faramineux, c'est hyper impressionnant. Mais, si je puis me permettre, dans jeux vidéo, n'oubliez pas qu'il y a jeu. Oui, l'idée parfois toute simple de s'amuser vite avec un concept tout simple. Roblox, Minecraft, Stardew Valley, Hades, Mario, Pokémon et autres célestes. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de modéliser des plaques de tartre sur les dents d'un personnage en 3D pour passer un bon moment. Hein. En plus, je dis ça pour vous, hein, parce que vos jeux coûtent un pognon de dingue à produire, ça vous met une pression de fou, vos enfants ils vous voient plus et ils oublient même comment vous vous appelez, et à la fin, même si le jeu se vend bien, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous vire parce qu'un éditeur avec une cravate n'a pas fait sa marge. Donc, je vous en supplie, revenez aux fondamentaux. Un petit cube, un pixel, de la 2D. Parfois, ça n'est pas d'argent dont manque un jeu, mais tout simplement de créativité.
France Inter, Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Ça va pas là-haut.
Joker.
Tu t'attendais peut-être à voir double face.
Tu ne t'échapperas pas, Joker.
Quel idiot! Je ne veux pas m'échapper. Je m'amuse trop. Je te garde même ici pour conserver ce beau sourire.
Pas pour longtemps.
Ah oui, on verra. Salut. Ah, j'oubliais. Juste au cas où tu prévoirais de me suivre à la trace, j'ai pensé à assurer mes arrières. Gordon est en route pour voir Harley à l'instant même.
Officier Bowles.
Si je te vois me suivre, il mourra. Harley n'attend que ça. Je filmerai peut-être pour mettre ça sur Internet.
Système de transport EHS. Le mieux que je puisse faire est d'ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivé. Désolé.
Je devrais retourner aux cellules de détention. Bowles n'est pas très intelligent. Il aura laissé une trace.
Batman, que se passe-t-il?
Le Joker s'est enfui. Il s'est enfermé. Il tient votre père.
Ah, papa.
Pas de panique, je vous le ramènerai.
Ok, je sais, mais...
Oracle, je le ramènerai. Le Joker ne gagnera pas. Je ne le laisserai pas. Je commence par l'endroit où il a été pris. Un garde du nom de Frank Bowles l'a attaqué. Si je le trouve, je trouve votre père.
Bruce, faites vite, s'il vous plaît.
Souvenez-vous, pendant des années, on mettait jeux vidéo et super-héros dans une même phrase et tout de suite nous venait à l'esprit l'idée de jeux bâclés, d'argent facile et de produits dérivés de piètre qualité. Et puis, en août 2009, sur console Xbox 360 et PlayStation 3, est sorti Batman Arkham Asylum, un jeu à l'ambiance incroyable qui mettait avec brio le joueur dans la peau de Batman lui-même. Porté par un design singulier et un doublage hollywoodien, Arkham Asylum allait devenir la nouvelle référence du jeu vidéo de super-héros et faire des émules. Et derrière ce classique, il y a un studio londonien qui venait de se faire connaître, le studio Rocksteady. Un studio qui a connu les hauts, mais aussi les bas de l'industrie du jeu vidéo. Et pour revenir sur leur histoire, je suis en compagnie, bien évidemment, d'Olivier Bénis. Eh oui, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire.
Hein. Allons-y, oui, bonjour voilà. Frédéric.
Qui en plus, ce matin, a un peu la voix de Batman.
Ouais, j'ai fait exprès. Hein. C'est-à-dire que j'ai fumé 15 clopes avant de venir. j'ai fait ça. J'ai arrêté de fumer depuis très longtemps, mais je l'ai repris juste pour ça.
C'est formidable, le professionnalisme.
Bah, ça va très loin.
Je rappelle quand même que vous êtes journaliste au service numérique de France Inter, spécialiste des jeux vidéo, indissociable de nos émissions du genre. Votre chronique, La Faux au jeu vidéo est à écouter en podcast sur l'application Radio France.
Exactement.
Avec nous, et c'est une première, Thomas l'écrivain, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes producteur associé pour le studio de jeux vidéo Nacon, et vous, on dit Nacon ou Nacon?
On dit Nacon.
Ouais, ouais. Nacon,
c'est
ça
plus
fait
un éditeur en fait.
Alors, l'éditeur Nacon.
Voilà, exactement.
Voilà. Et vous avez créé un podcast dédié aux jeux vidéo, Nouvelle Sauvegarde.
Oui, tout à fait, oui.
Avec nous également Hugo Perreault, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes assistant éditorial chez Urban Comics, les éditeurs français de Batman.
Tout à fait.
Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre...
C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés.
Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable.
Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham ?
Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total.
Mais pourquoi donc ? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman.
Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham.
Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage, un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret.
Vous venez d'entendre un extrait du jeu vidéo Batman Arkham City du studio Rocksteady, sorti en 2011, deuxième opus de la licence Batman Arkham. Et dans chacun de ces jeux, Batman est interprété en anglais par Kevin Conroy et doublé en français par Adrien Antoine. Olivier Bénis, c'est le moment histoire. Comment est né le studio Rocksteady ?
Alors, Rocksteady est né à la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Leur premier jeu, c'était un truc qui s'appelait Urban Chaos, qui est sorti sur la toute première PlayStation et qui était un jeu pas forcément marqué l'histoire, mais qui était très ambitieux en fait dans sa forme, puisqu'il commençait déjà à proposer une sorte de monde ouvert où on pouvait prendre des véhicules, où on devait résoudre des enquêtes, poursuivre des criminels, etc. C'était très axé action. Mais il y avait déjà des prémices de ce que ils pensaient faire un petit peu plus tard. Et puis on les retrouve beaucoup plus tard justement, donc en 2009, avec ce Batman Arkham Asylum. On leur confie la licence Batman, donc c'est pas rien pour un studio comme eux. Et ce studio qui a fait quasiment qu'un seul jeu marquant, en fait, va se retrouver... Je pense qu'ils ont eu cette espèce d'impression d'avoir une carte blanche, en tout cas de se dire on n'a rien à perdre, on y va à fond. Et on fait vraiment le jeu qu'on aurait envie de voir sur ce personnage de Batman. Et il crée quelque chose d'incroyable, donc d'abord Arkham Asylum, puis Arkham City quelques années plus tard, et enfin Arkham Knight qui est la conclusion de la saga, de la trilogie. Et ces trois jeux ont vraiment profondément marqué à la fois l'univers de Batman, les adaptations de comics en jeu vidéo, et même le jeu vidéo lui-même, puisqu'il y a énormément de mécaniques de Batman, de la série Arkham, qui vont être reprises dans plein d'autres jeux ensuite.
Et alors c'est un studio londonien. Ce qui me fait vous demander, est-ce que l'Angleterre est une nation de jeux vidéo ? Parce qu'on a l'habitude d'avoir les gros studios américains, les studios japonais, même les studios français.
Ouais, la fameuse French Touch.
Mais voilà, l'Angleterre, c'est quelque chose qui survient plus rarement, j'ai l'impression, dans la conversation.
Ouais, pourtant, il y a un jeu vidéo anglais, il y a un jeu vidéo britannique. Mais il est... Alors du coup, j'ai fouillé un petit peu pour voir ce que je retrouvais comme nom de studio, justement, typiquement britannique. Et en fait, il y a... tellement de tout, en fait. Il y a des studios qui ont fait vraiment des jeux extrêmement différents. Il y a eu une espèce d'âge d'or un petit peu du jeu vidéo anglais dans les années 90, avec des studios comme Bitmap Brothers, comment il s'appelle, David Braben, qui a fait la série Elite, donc une série simulateur de vaisseaux spatiaux qui était extrêmement en avance sur son temps. Ils ont fait aussi les Sensible Soccer, des jeux de foot un petit peu barrés. Il y a plein de choses comme ça. Team 17 aussi, qui a fait donc Worms, plus récemment Overcooked. C'est des studios qui ont une patte un petit peu particulière et qui essaient souvent de faire des projets justement un petit peu barrés qui sortent des sentiers battus. Ce qui fait que c'est assez surprenant de voir que justement Batman, qui est une espèce d'icône vraiment très typiquement américaine dans son, enfin dans ses origines et même dans son écriture, dans sa manière d'être présenté au monde. Ben voilà, c'est un studio londonien qui l'a repris. Et puis pour citer vraiment l'exemple de jeu vidéo marquant qui est quand même venu de la Grande-Bretagne, on a Grand Theft Auto, puisque Rockstar au départ c'est un studio britannique.
Thomas l'écrivain, comment avez-vous découvert ou reçu ce Batman Arkham Asylum quand vous y avez joué pour la première fois?
Alors, pour raconter ce souvenir, c'était il y a moins d'un mois déjà, puisque j'ai fait un peu du jeu rétro. Est-ce qu'on peut parler de ça à cette époque?
Là, d'un coup, on se prend un coup de vieux.
Ah, bah, il se trouve que quand le jeu est sorti, j'avais une dizaine d'années, donc c'était un peu juste, on va dire. Donc, pour vous dire, j'étais assez bluffé, tout en connaissant cette réputation qui suivait la saga, mais du soin apporté avec ce jeu qui est rempli vraiment de détails savoureux pour les fans de comics, mais aussi pour les amateurs de jeux vidéo, puisque on sent que avec Rocksteady, il y a un soin apporté, une envie en fait de retranscrire les codes de Batman dans le monde du jeu vidéo. Enfin, on se pose vraiment les bonnes questions en fait avec cet Arkham Asylum qui va vraiment poser dès le début toutes les bases de la trilogie, quoi. Donc vraiment.
Ouais. Et justement, comme vous avez découvert assez récemment ce Batman Arkham Asylum, est-ce qu'il y a des mécaniques de jeu qui vous ont semblé vieillies, ou est-ce que vous trouvez que ça tient encore très très bien la route en 2025?
Déjà, j'étais surpris de cette progression qui était linéaire, donc puisque la série Arkham est surtout connue pour son second opus qui est un open world, et là on est vraiment sur une structure très ramassée, très linéaire, en couloir, etc. Et j'étais surpris en fait de à quel point le rythme était tenu à ce niveau-là, de l'efficacité du soft qui, dès 2009, tenait vraiment très bien. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est la vision du détective, qui est aujourd'hui une mécanique, je pourrais même dire surannée, qui est utilisée à tort et à travers. C'est-à-dire, en fait, on va pouvoir voir en activant une option, voir en surbrillance des détails qui pourraient nous aider. Et en fait, avec Batman, Rocksteady a vraiment réfléchi à cette vision du détective pour lui donner un sens ludique qui aujourd'hui a été complètement perdu. Donc en fait, plus qu'une mécanique aurait vieilli, c'est plutôt voir son origine et voir aussi à quel point en fait elle était pensée au début.
Hugo Perreo, vous êtes quelqu'un de bien, vous aimez le comic book, donc les auditeurs savent pourquoi déjà. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un de bien, mais en plus vous êtes gamer, ce qui fait de quelqu'un de vous, quelqu'un de mieux.
Donc
comment vous avez reçu ce premier Batman?
J'avais également une dizaine d'années quand le jeu est sorti, et pour le coup j'ai joué à la sortie. J'étais à l'époque un lecteur relativement néophyte de comics, mais très attiré par ces univers, soit les séries animées ou les comic books. Et quand le jeu sort en 2009, on a déjà les deux premiers opus de la trilogie de Nolan qui sont sortis, donc Batman Begins et Batman The Dark Knight. Donc l'image de Batman dans la pop culture qui se dessine à ce moment-là, c'est un Batman très ancré dans le réel, très réaliste. On élimine de la mythologie de Batman tous les éléments qui pourraient sembler trop surnaturels. Et là, avec cet opus, on revient au contraire dans une adaptation très proche du comics, ou en tout cas qui a un pont parfait entre le comic book et un univers, une vision plus réaliste. Le jeu vidéo a une empreinte assez réaliste dans son design de Batman, même s'il a un costume tout droit sorti du comics. Et donc, je suis absolument bluffé de cette capacité qu'a eu Rocksteady à encore une fois faire le point entre ces deux mondes, et je suis bluffé parce qu'on est dans le comics en fait, on est dans le comics, on incarne Batman, et ce dès les premières minutes de jeu. Donc le moi de 10 ans ne veut plus jouer à rien d'autre en fait pendant les 3 années qu'on suivit. Désolé à mon frère avec qui je partageais l'ordinateur, impossible de désinstaller Arkham Asylum, et ça a été vrai pour les années qu'on suivit, et pour avoir refait moi aussi une partie il n'y a pas très longtemps, en effet je suis bluffé des mécaniques même narratives. Pour moi c'est un jeu qui a aucunement vieilli, sinon évidemment la patte visuelle qui a pris son petit coup de vieux, parce qu'en effet c'est du rétro gaming aujourd'hui, ça fait mal de le dire mais c'est le cas.
On est ensemble pour parler de l'histoire du studio Rocksteady, mais pour le moment on va écouter Gorillaz avec Clint Eastwood qui a servi de bande originale pour la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League du studio Rocksteady.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless,
but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Hey, happy. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle. Not his muscles, but percussion he provides. With me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
L'épouvantail a semé la panique. Hier, Gotham City comptait en tout 6 300 000 habitants. Aujourd'hui, beaucoup moins.
Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos.
La crème de Gotham.
Les crapules. Les criminels. Et pire encore, il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter.
Vous venez d'entendre les premières minutes de Batman Arkham Knight, jeu vidéo du studio Rocksteady sorti en 2015. Alors on est là tous ensemble en train de vanter les mérites de ce jeu de super-héros, mais les jeux vidéo de super-héros, Olivier Bénis, ça n'a pas toujours été qualitatif.
Non, c'était même nul avant. Voilà, non c'était pas nul, c'était juste que par comparaison avec ce qu'a fait Rocksteady, c'était quand même pas très compliqué. C'est un peu ce que vous disiez dans votre édito au départ, c'est-à-dire qu'au début, adapter un comics en jeu vidéo, ça pouvait donner des bons jeux, ça c'était pas une question, mais c'était rarement des bonnes adaptations. C'était souvent juste, on a plaqué sur un concept de jeu qui aurait pu être à peu près n'importe quoi d'autre, des personnages de jeux vidéo. Je pense aux les jeux vidéo X-Men ou les jeux vidéo Spider-Man sur, à l'époque de la Super Nintendo ou de la Mega Drive.
Des beat'em up basiques.
Ça pouvait être Double Dragon, Streets of Rage, c'était exactement le même jeu. C'est juste le fait d'avoir payé la licence qui rajoutait ces personnages-là. Donc ça marchait bien chez les fans parce que ça avait le côté, ça faisait des belles boîtes de jeux à la maison et puis ça faisait des trucs sympas où on pouvait jouer avec Spider-Man ou des jeux comme ça. Ça pouvait aussi donner des désastres désastre absolu, comme le fameux Superman sur la Nintendo 64, qui a la réputation d'être le pire jeu vidéo jamais créé, je crois, dans pas mal de tops dans le monde entier.
De toute façon, Superman est l'enfant maudit du jeu vidéo.
Ouais, il y a un jeu pas mal Superman sur Super Nintendo à l'époque, si je dis pas de bêtises, The Death and Rebirth sur Superman, qui est plutôt bien,
oui.
Qui a un beat'em all aussi.
Oui, beat'em up.
Donc, qui, encore une fois, n'a vraiment aucune originalité pour lui. Et donc, quand arrive Batman, forcément, c'est un peu en jachère, quoi, tout ça, les adaptations de comics en jeux vidéo. On a un petit peu même renoncé à le faire. D'ailleurs, je crois que les dernières adaptations de Batman qu'il y avait eu avant, c'était des adaptations du dessin animé ou de films. Si je dis pas de bêtises, Batman Begins avait une version vidéoludique.
Il y avait eu un très très bon beat'em up de Batman, la série animée, qui est sortie sur Mega Drive et Super Nintendo.
Ouais. La version Mega Drive étant, à mon avis, largement supérieure.
Oui.
Je ne débattrai pas
comme
là-dessus.
Comme pour Aladdin.
Comme pour un certain jeu de Disney qu'on ne citera
oui.
pas. Voilà.
Et le Roi Lion.
Mais donc voilà. Et donc, il y a un peu tout à faire, en fait, pour arriver à ça. Et le génie de Rocksteady, c'est de se dire, justement, on ne va pas faire ça. On ne va pas prendre un jeu qui pourrait être n'importe quoi d'autre. On va prendre l'essence de ce qui fait Batman, alors que ce soit au niveau du scénario, de la réalisation, mais aussi du gameplay, puisque tout le gameplay est vraiment pensé en se basant sur le personnage. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'intérêt du personnage de Batman ? C'est un combattant, évidemment, ça c'est le truc de base qui marche bien dans un jeu vidéo, mais c'est un détective. Et adapter du travail de détective, entre guillemets, dans un jeu vidéo, c'est toujours plus compliqué, parce que soit on tombe sur vraiment du jeu de réflexion pure, où il faut chercher des indices, relier des choses entre elles, soit on passe complètement à côté, on en fait un gadget. Là, dans Arkham Asylum, on avait pour la première fois, on incarnait vraiment le détective Batman. On avait des combats, mais une grosse partie du jeu, c'était identifier la source d'énergie, par exemple, pour ouvrir une porte, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans une pièce en observant les indices autour. Ça a été d'autant plus vrai dans les jeux suivants où vraiment ces aspects-là ont été encore amplifiés, particulièrement dans Arkham Knight, où il y a vraiment des phases d'enquête qui sont très très bien faites, pour le coup, qui sont quasiment du jeu d'aventure classique. Et voilà, et avoir pris tout ça en fait dès le départ, donc être à partie du personnage et du matériau d'origine, et ensuite avoir développé le jeu autour de ça, ça fait qu'il n'y a pas un élément de gameplay, de réalisation ou graphique qui n'ait pas un sens par rapport au personnage lui-même. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça a été aussi marquant pour les fans de comics, ou même plus bêtement, c'est que le scénariste des deux premiers Arkham, c'est Paul Dini, qui est le mec qui a quand même co-créé la série animée Batman. Moi, c'est avec ça que j'ai découvert vraiment le vrai Batman, entre guillemets, celui des comics, avec Bruce Timm, ouais, justement, au dessin. Et donc, forcément, ça fait écho à ça. C'est quand on a adoré la série animée Batman à l'époque, qui était cette espèce de vision un peu plus sombre, tout en ayant ce côté un peu fantastique aussi, que ne pouvaient pas forcément faire les films qui allaient vers plus de réalisme, bah ça fait que ça nous parlait tout de suite, quoi. Ça parlait au cœur de fans qu'on avait.
Thomas l'écrivain, d'ailleurs ce gameplay particulier, on a parlé du travail de détective de Batman, mais sa maîtrise des arts martiaux, sa discipline sportive et la maîtrise des sports de combat, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et à mon sens, même qu'on n'a encore jamais vu, même sur le grand écran. Tout le monde parle d'une certaine séquence de Batman contre Superman de Zack Snyder, mais qui est totalement inspirée par le style de combat qu'on voit dans ces trilogies Arkham.
Oui, tout à fait. Alors là, donc vous faites référence au système de combat qui s'appelle le Free Flow, qui porte très bien son nom, parce que c'est une sorte de danse macabre, en fait, une sorte de jeu de rythme, puisque ça a été pensé comme ça à la base, où en fait on va tout faire en œuvre pour, grâce à plusieurs feedbacks, qu'ils soient visuels ou sonores, attaquer, contrer, utiliser les gadgets à la James Bond, mettre des coups de grâce. Enfin, en fait, on se sent surpuissant face à des dizaines d'adversaires parfois, littéralement.
Et qui vous attaquent en même temps.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est un élément constitutif de ce qu'on va appeler la fantaisie du jeu, c'est-à-dire le fantasme autour du jeu, ce qu'on veut incarner, c'est-à-dire qu'on se sent un Batman très compétent. C'est ça la force du jeu, et qui va aussi être accompagné d'un mode prédateur, donc là ça va être plus en mode infiltration, qui en fait va être en duo avec ce free flow, va nous donner justement l'impression d'être le Batman surpuissant, c'est-à-dire que
d'amener
même en
la
étant
peur dans
c'est
le
ça
cœur
exactement
des criminels.
Même en étant acculé dans l'asile, c'est nous qui sommes le plus fort.
Oui, pour paraphraser Rorschach dans Watchmen,
j'y pensais, oui,
c'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé
tout
avec
à fait
moi.
Tout à fait.
Hugo Perreault, justement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de voir Batman sous forme de comic book dans des images de toute beauté mais figées. Et ensuite, quand on a commencé même à le voir en série animée ou en film, on se souvient de Michael Keaton qui avait beaucoup de difficultés à bouger son cou avec ce costume. Ça n'a jamais été vraiment mis en valeur, les capacités physiques de Batman. Est-ce que le Batman de la trilogie Arkham n'est pas l'apex de ce qu'on imagine quand on lit une aventure de Batman?
Si, complètement, et c'est même une des façons dont le jeu a été pensé, c'est de prendre le mythe de Batman et de l'exagérer dans tous ses points. La Batman, c'est un tank humain, c'est un one-man army, il peut affronter 15 gars en même temps, 3 géants, ils ont des matraques, des flingues, peu importe, il peut tous les affronter tant qu'on est bon, qu'il y a ce sens du rythme de la part du joueur, c'est le meilleur détective. Donc, de fait, c'est en effet l'apex du mythe de Batman, mais je dirais même de façon plus générale, c'est l'apex de l'ensemble de la mythologie de Batman. Chaque jeu aura réussi à masteriser une étape, une partie de Batman, le premier, donc tous ces premiers éléments constitutifs du personnage, le deuxième, son aspect urbain, quand on rentre dans Gotham City, le troisième apporte la Batmobile, on aura l'occasion d'y revenir probablement, mais chaque jeu aura réussi à sa façon à apporter un Batman en mouvement le plus qualitatif. Alors évidemment, lisez des comics, il y a mille histoires absolument merveilleuses, mais de fait, la série Arkham, c'est à mon sens le meilleur Batman qui soit.
Et justement, on parle d'une trilogie, quel opus a eu vos faveurs?
Pour moi, ce sera Batman Arkham City, donc le deuxième volet de la trilogie, qui est justement, chaque jeu a sa façon masteriser la formule. Donc, mais Arkham City, par rapport à Arkham Asylum, on a poussé les potards à fond. D'une part, l'ouverture en open world, on le disait. Donc, dans le premier, on est confiné dans l'asile d'Arkham. Et dès le second, on s'ouvre aux rues de Gotham City. Et la façon dont Rocksteady parvient à nous faire vivre justement ce caractère urbain de Batman et toute la qualité qui est apportée, notamment dans les dialogues des personnages, pour qu'on comprenne que Batman est une légende. Le tout combiné au scénario de Paul Dini, qui est vraiment, à mon sens, un scénario tout droit sorti de certains des meilleurs comic books du personnage. Ça en fait une œuvre en tout point extraordinaire, en jeu vidéo en termes de gameplay, mais aussi une histoire extraordinaire.
Oui, parce qu'en plus, ça souffle le chaud et le froid en permanence. Et alors qu'on part avec Hugo Strange comme protagoniste principal, très rapidement, on commence à s'y perdre et à se dire « Mais en fait, non, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. »
Et oui, c'est là toute la force d'avoir pris un scénariste de renom. On le disait, c'est Paul Dini, donc qui est vraiment un scénariste confirmé sur le personnage de Batman, la série animée, mais aussi des comics. En France, Batman Fugitif, qui est considéré comme un très bon comic sur le personnage. Et c'est cette qualité de scénariste qu'on va peut-être un peu perdre dès le troisième volet, quand Paul Dini n'est plus sur le projet, mais également sur Arkham Origins, puisque... on a un récit qui est vraiment un récit de comics. Il y a presque cette formule. Vous savez, le comics, c'est publié sous forme de format, c'est en format épisodique. Donc chaque numéro se termine sur un cliffhanger, sur un suspense. Et en effet, tout le jeu, nous, par son format un peu en chapitre, parvient à nous constamment à nous avoir, constamment à nous envoyer dans l'épisode suivant quelque part. Et ce format comics est tout simplement parfait pour raconter une histoire.
My name is Amanda Waller. I am the director of Argus.
Je suis la directrice de l'Argus, une division de la sécurité intérieure dont vous n'avez jamais entendu parler.
But we've heard.
Mais j'ai entendu parler de vous.
And I'm here to make you an offer.
Et j'ai une proposition à vous faire.
You're tenacious as junkyard.
Vous êtes aussi tenace que des chiens errants, désespérés, affamés.
You know how to survive.
Vous êtes doué pour survivre.
Now that might make you the king.
Ça fait peut-être de vous les rois et reines d'Arkham, mais hors de ces murs, le monde vous a oublié. Et vous allez passer le reste de votre vie à retirer les asticots de vos repas de prison. Je peux changer ça. Je peux vous tirer d'ici. Vous donner une chance de faire le bien.
Bonjour, Harley Quinn de la Gazette d'Arkham. Juste une petite question, c'est quoi ce putain de requin?
Je serais ravi de me présenter.
Ça ne sera pas nécessaire, King Shark.
C'était un extrait du jeu vidéo Suicide Squad Kill the Justice League, le mal aimé, développé par Rocksteady et sorti en 2024. Amanda Waller est interprétée par Debra Wilson en anglais et par Maïk Dara en français. Alors on va revenir un petit peu en arrière parce que évidemment on a parlé du succès de Batman Arkham Asylum, Arkham City. Ensuite il y a eu Arkham Knight qui a introduit donc la Batmobile. En plus de ça, on a vu plein de nouveaux personnages rejoindre, se battre aux côtés de Batman, Nightwing, Robin, Catwoman, et tout comme ses adversaires aussi qui se sont étoffés. À cette époque, je me souviens, et moi le premier, qu'on était très demandeurs d'avoir un Superman réalisé par le studio Rocksteady. Comment ça s'est passé pour qu'on passe d'une trilogie mais révérée par nombre de joueurs à Suicide Squad qui poursuit l'univers Arkham mais au grand dam d'énormément de joueurs.
Bah alors il y a Superman dans Suicide Squad mais c'est pas tout à fait celui qu'on
oui parce que là faut le tuer.
C'est pas vraiment la faute de Rocksteady parce que eux voulaient faire un jeu Superman, ils l'ont proposé et visiblement ça a été rejeté. Enfin, en tout cas les infos qu'on a c'est que quand ils ont proposé le projet de bon bah maintenant qu'on a rendu hommage suffisamment à Batman, est-ce qu'on passerait pas à l'autre personnage emblématique de DC Comics? Et bah non, ça l'a pas fait. Warner Bros ne voulait pas. On saura jamais vraiment pourquoi. En tout cas, voilà, ça peut peut-être changer maintenant puisque on a le Superman de James Gunn qui arrive prochainement dans les mois qui viennent. Donc on sait jamais si ça remet, enfin si le personnage a un retour en grâce. Du côté du cinéma, peut-être que le jeu vidéo s'y intéressera un petit peu plus. J'ai un peu peur que le petit miracle qu'était Batman Arkham Asylum puisse pas vraiment se reproduire dans le contexte actuel où les très gros studios, et notamment les studios ciné, vont être beaucoup plus frileux sur les adaptations qu'on peut faire de leurs personnages. Et voilà. Après, ça peut être super intéressant de voir Superman en version Rocksteady un petit peu. Ce qui est cool, c'est que les Asylum, enfin les Arkham Batman, ont eu d'autres héritiers chez la concurrence, puisque oui. Marvel Spider-Man 1 et 2 et Miles Morales sont extrêmement inspirés de Batman Arkham Asylum, enfin pour pas dire même totalement plagiés sur le système de combat, et ça marche très très bien aussi.
Et même le prochain Wolverine qui est annoncé a beaucoup de similitudes.
Il y a de fortes chances puisque le personnage s'y prête bien aussi, hein, très clairement. C'est intéressant parce que le fait de transférer la formule, notamment au niveau des combats de Batman à Spider-Man, ça aurait pu ne pas marcher parce que Spider-Man justement a un côté se prête très très bien à de l'open world, à des déplacements dans une ville immense et tout, mais pas forcément à du combat rapproché comme ça. Et au final, en fait, moi j'étais le premier surpris, manette en main, de me dire ça ressemble à Arkham, mais c'est pas la même chose. C'est qu'il y a vraiment ce côté moins brutal, plus fun, peut-être du coup avec moins d'enjeux dans les combats en tout cas, mais vraiment les combats de Spider-Man étaient très convaincants par rapport à ça.
Après, je mets juste un nota bene parce qu'il y a eu un Spider-Man Web of Shadows qui est sorti avant la trilogie Arkham, qui avait un système de combo très travaillé avec Spider-Man en monde ouvert également, et qui, je pense, a aussi servi de matrice pour ce Spider-Man. Il y a une sorte de mariage des deux, Batman, la trilogie Arkham et ce Spider-Man, qui ont créé... mais je m'étais souvenu du gameplay qui était très intéressant.
Un jeu qui, si je ne dis pas de bêtises, a totalement disparu de la circulation, puis fait partie de ces jeux maudits Marvel qui ont été retirés complètement de la vente.
Exactement, sauf si on a gardé ses consoles et ses anciens
jeux.
Et ses
boîtes, voilà. Ou si on avait acheté le jeu avant sur Steam.
Exactement.
Et dans un futur proche, il y a le jeu Wonder Woman qui a été annoncé, qui me semble est parti HQ, qui était déjà à l'origine des Shadow of Mordor et War of Mordor, et qui était déjà très largement calqué dans le système de combat sur la saga Arkham.
Tout à fait.
Et qui peut laisser présager, du coup, un jeu Wonder Woman qui épouserait quelque part ce gameplay. Donc, on aurait eu Batman et Wonder Woman. Il ne reste plus qu'à espérer pour le troisième grand héros de DC pour Superman dans les années à venir. Croisons tous les doigts.
C'est toujours difficile d'adapter Superman, particulièrement en jeu vidéo, parce que le principe même du personnage est qu'il est invincible. Ce qui fait la force des Batman, c'est que ça reste un homme derrière le masque et que une erreur sur un combo ou quelque chose d'un peu compliqué à gérer ou un boss un petit peu trop puissant vous met en difficulté. Arriver avec Superman en se disant je suis totalement invincible, enfin en gros je peux raser la moitié de la ville si je veux pour retrouver mon adversaire et ça me posera pas de problème. Donc j'attends de voir ce qu'on peut proposer par rapport à ce personnage.
Après on a toujours l'adaptation de Superman dans Injustice. Où ils avaient trouvé des petites facilités scénaristiques pour justifier que tout le monde était au même niveau.
On n'aurait qu'à dire que tout le monde avait des pouvoirs.
Voilà. Mais n'empêche que ça en faisait une version jouable néanmoins.
Et puis surtout, c'était un scénario passionnant, Injustice. C'est-à-dire que c'est un jeu, enfin, c'est très très fort, je trouve, parce que c'est un jeu de combat, donc à la base fait par le studio qui a fait les Mortal Kombat. Et le scénario de
NetherRealms.
Ouais, le scénario de Injustice est tellement bon que c'est devenu un comics à presse, si
oui,
je ne dis pas de bêtises.
Écrit par Tom Taylor.
Qui est passionnant à lire aussi. Et vraiment, l'histoire est incroyable.
Et arrive Suicide Squad Kill the Justice League, auquel j'ai eu l'occasion de jouer, et même jouer longtemps, et qui, là je sais que je vais provoquer l'ire de certains joueurs, est largement meilleur que ce qu'on en a dit.
Que sa réputation, oui.
Que sa réputation, et qui a eu, malheureusement, qui a été un échec incroyable, au point même que certains membres du studio Rocksteady ont été licenciés. Thomas l'écrivain, est-ce que vous avez joué, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester Suicide Squad, Kill the Justice League? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous aurait rebuté éventuellement dans ce jeu?
Alors, malheureusement, d'après ce que vous en dites, non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer le jeu, mais c'est vrai que c'est un jeu qui traîne une réputation d'un jeu, on va dire, pollué. C'est-à-dire, en fait, avec cet opus, on a le sentiment que Rocksteady est complètement tombé dans le jeu service. Donc, c'est-à-dire, en fait, un jeu qui est censé continuellement maintenir une audience captive via la publication régulière de contenu, via aussi ce qu'on va appeler des microtransactions, une monétisation du jeu perpétuelle.
Oui, un mode de jeu inspiré des gachas, du téléphone portable, avec des battle pass, des passes saisonniers, des nouveaux costumes et des fois de nouveaux personnages.
C'est ça, exactement. Et donc, c'est ce qui fait que, en tant que joueur console qui a l'habitude d'un jeu premium qui est relativement protégé de ce genre de pratique, j'ai pris un peu mes distances. Mais c'est vrai que un bruit court comme quoi l'écriture de Rocksteady persiste, que derrière toute cette pollution, un jeu subsiste, un cœur plus riche qu'on ne le pense.
Hugo?
Et en effet, je pense que le terme que vous avez employé, c'est le bon, c'est que le jeu est pollué. Il y a un vernis, en fait, de Game as a Service. Quand on allume le jeu, il y a plein de stats, il faut constamment changer d'équipement. Des stats donc vraiment qui sont gonflés pour une progression parfois assez artificielle. Néanmoins, j'ai également beaucoup joué au jeu. Et je trouve qu'en effet, le scénario de Rocksteady est toujours là. On suit cette équipe donc de 4 membres de la Suicide Squad, en l'occurrence Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Captain Boomerang. Et on retrouve parfaitement non seulement le concept de la Suicide Squad, donc une équipe de super-vilains employés par le gouvernement américain pour participer à des missions suicides, comme quoi le nom est bien trouvé, en l'échange d'une remise de peine. Et on retrouve une qualité d'écriture de cette bande de marginaux qui vont devoir interagir ensemble. Et cette qualité, c'était déjà une des qualités de la trilogie Arkham, à savoir un travail de sound design très prononcé. On a des lignes de dialogue, il y a encore énormément de dialogue.
Très drôle aussi.
Très drôle, les personnages vont interagir entre eux. Et qu'il rapproche, en un sens, d'un jeu comme Marvel Guardians of the Galaxy, qui est sorti quelques années plus tôt. Mm-hmm. Où Jeu du hasard présentait déjà une équipe de marginaux qui va devoir explorer l'univers Marvel. Donc, là, pour
et
moi,
lui aussi n'a pas eu le succès mérité.
Et qui était un jeu d'aventure plus linéaire. Et on pourrait se poser la question, Suicide Squad n'aurait-il pas été un meilleur jeu si s'était rapproché de cette formule du jeu d'aventure? En tout cas, en mon sens, ce qui fait la richesse des jeux de Rocksteady, en tout cas d'apparence, à savoir l'exploration d'un grand monde ouvert, énormément de références à l'univers de DC, on se plaît à découvrir non plus Gotham City mais Metropolis, et la qualité des dialogues, tous les éléments sont là. Maintenant, il y a en effet dans la boucle de gameplay une grande répétitivité, un jeu de tir qui a pu désarmer nombre de joueurs qui s'attendaient à une suite disons plus dans la ligne de la série Arkham. En tout cas, moi c'est un jeu auquel je prends du plaisir à jouer et j'ai pris du plaisir sur le long terme puisque j'ai dû y jouer une soixantaine d'heures avant de passer à autre chose.
When I think of the Justice League, I think of Wonder Woman, Superman, Green Lantern. You don't want to mess with that lot. But you, Barry, you're just the team mascot, aren't you, mate? The loser of the league, folks. The fastest man alive. It's the
Flash is alive, and he's playing for Team Brainiac. I gave you orders. Kill the Flash. Or I'll kill you myself.
Cool, cool.
Un extrait du jeu vidéo Suicide Squad, Kill the Justice League, avec notamment Brainiac, interprété en anglais par Jason Isaacs, et en français par Lynel Tua. Olivier Bénis, j'ai l'impression d'être un peu le fossoyeur du jeu vidéo, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont joué très très longtemps à Marvel Avengers. Le jeu a fait
ça
un bide monumental, il s'est planté.
Suicide Squad, pareil.
J'ai notamment aussi fait un très très bon jeu Marvel cette fois-ci.
Midnight Suns.
Pareil. Mais à chaque fois, j'ai découvert un bon jeu. Mais quand on regarde la manière dont ces jeux-là ont été traités par les internautes, par la presse, j'ai l'impression qu'il y a une fracture, mais totale.
Oui, alors il y a des raisons très différentes derrière les échecs de ces jeux. C'est-à-dire que Midnight Suns, c'était un jeu très particulier qui tournait donc autour des super-héros Marvel, mais qui était un jeu de stratégie au tour par tour, ce qui est forcément déstabilisant quand on est habitué à d'autres choses. Marvel Avengers avait un petit peu comme Suicide Squad cette espèce de surcouche de jeu-service avec nécessité d'acheter des packs d'armes, des packs de trucs, des machins, des choses dans tous les sens. Voilà, alors peut-être qu'on assiste un peu à une fin progressive de cette ère-là, en tout cas du jeu-service, en tout cas moi j'espère à titre personnel, parce que je crois que Sony a annulé deux très gros jeux, dont un God of War conçu comme des jeux-service il n'y a pas très longtemps, on l'a découvert il y a une ou deux semaines.
Notamment un God of War.
Ouais, voilà, ce qui est quand même pas rien à annuler. Ubisoft, sur Assassin's Creed Shadows, a complètement changé son fusil d'épaule et a dit on va arrêter ça, on abandonne les Season Pass, les choses comme ça, on se concentre sur une expérience de jeu complète. Donc croisons les doigts, peut-être qu'on a atteint la fin de cette là. Mais voilà, c'est un peu triste parce que ça donne l'impression que le monde du jeu vidéo, en tout cas passé une certaine taille de jeu, ne peut plus prendre de risques sans vraiment que ça ait des conséquences dramatiques. C'est-à-dire qu'à une époque, les plus gros éditeurs pouvaient tenter quelque chose comme typiquement Batman Arkham Asylum. Et au pire, ça marchait pas, et c'est pas grave, on avait encore plein d'autres choses sous le coude. Là, on a vraiment l'impression que les studios investissent tellement dans les grosses productions, notamment les productions à licence, que ça devient presque vital.
Il y a un budget marketing aussi qui est énorme qui fait qu'on ne peut pas rentabiliser Marvel Spider-Man 2, qui est pourtant l'exemple même d'un jeu réussi, plébiscité par la presse, les joueurs, alors qu'il a énormément vendu,
qui s'est bien vendu,
n'a pas vendu assez pour justifier le contenu additionnel qui était prévu, et en plus on le sent prévu quand on joue au jeu.
Que le jeu a coûté trop cher pour pouvoir rentrer dans ses frais, ce qui est quand même il y a quand même un vrai problème d'anticipation de la part des studios. Et bon, on verra bien ce que ça donnera dans les années qui viennent, parce qu'on est vraiment dans une grosse période de bouleversement du jeu vidéo. Mais c'est pas très rassurant. On parlait tout à l'heure d'un éventuel jeu Superman, tout. C'est vraiment typiquement le genre de projet qui peut très très vite aller dans une poubelle. Pas tellement parce que ça donnerait un mauvais jeu, mais parce que ça donnerait pas un jeu suffisamment vendeur pour rembourser ce que ça coûterait.
Oui, donc on est vraiment juste dans des problématiques de coût, mais non plus du tout de gameplay ou de plaisir de jeu. Parce que je me souviens d'une époque, quand la presse spécialisée en jeux vidéo avait encore pignon sur rue, où on pouvait laisser exister des jeux notés 7, 8 sur 10, même 6 sur 10, si jamais on y trouvait son compte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est mort, ça.
Oui, c'est compliqué maintenant. C'est-à-dire que un jeu noté 7, 8 sur 10, il faudra que l'éditeur et le développeur du jeu aient pensé à pas trop mettre d'argent dessus, parce qu'il pourra pas être totalement remboursé, qu'il aura peut-être une seconde vie dans quelques années quand des gens se diront « Ah, mais finalement, c'était pas si mal, ça faudrait qu'on y retourne. » Mais c'est pas simple, ouais. Et le problème, c'est que, quand on parlait de l'exemple de Suicide Squad tout à l'heure, qui se retrouve un peu pris dans ce truc-là, parce qu'il faut à tout prix que le jeu rapporte plein d'argent, donc on a mis un énorme budget marketing. Et du coup, il faut aussi que le jeu rapporte de l'argent en interne, c'est-à-dire qu'il faut que les gens continuent à payer le jeu après l'avoir payé, dans un sens, en achetant des objets supplémentaires, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que ça peut couler un projet d'un studio pourtant archi reconnu et excellent comme Rocksteady. C'est-à-dire qu'on sait que les gens peuvent faire un excellent jeu. Ils ont fait un excellent jeu, en tout cas au moins sur le fond, sur Suicide Squad. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de très très bons moments dans le jeu. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on a tellement investi pour essayer d'aller plus loin que ça ne suffit plus.
Ce qui est dingue.
On a changé d'époque.
Ce qui est dingue. Et Thomas l'écrivain, je sais que vous aimez énormément le rétro gaming. Et qu'est-ce qui vous a amené à privilégier plutôt cet aspect du jeu vidéo plutôt que les jeux les plus contemporains?
C'est une question, on va dire, de curiosité. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille dans le jeu vidéo et j'ai le sentiment que on peut trouver beaucoup de choses dans le déjà des propositions ludiques marquantes comme Batman Arkham Asylum en est une, dans des jeux plus anciens. Et puis, en fait, je pense ne pas être le seul, puisque c'est impossible de suivre l'actualité du jeu vidéo, d'avancer avec elle. Et donc, en fait, quand on est gamer comme moi, on est dans un rattrapage constant. Et donc, c'est ce qui arrive. On est obligé de faire des jeux qui ont 10 ans, Batman Arkham Knight qui a 10 ans, aujourd'hui.
Oui, quoi. Donc vous avez quand même le sentiment d'être un peu écrasé par, ouais, le côté pléthore de nouveaux jeux vidéo.
Et quelque part, je comprends beaucoup le phénomène que décrit Olivier. Il y a ce truc de, on a des jeux toujours plus gros, toujours plus chers. Mais en fait, c'est finalement pas ça qui retient l'attention. C'est plutôt des propositions un peu uniques, qui ont un cachet de la personnalité, de la radicalité, et qu'on peut avoir par exemple dans le jeu indépendant, qui lui, justement, en jouant avec ses coûts très réduits, arrive à mettre en place une certaine créativité qui va bousculer les joueurs que nous sommes.
Hugo Perreault.
Le mot
de la fin, ce point de vue sur cette avalanche de nouveautés, ces jeux toujours plus chers.
C'est évidemment un frein en tant que joueur. En effet, hein, ce sentiment d'être écrasé par les nouveautés, c'est complètement présent. Heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des leviers. Je suis joueur personnellement PC, on est aussi enseveli par des soldes qui nous permettent de regarder vers l'arrière et trouver des moyens de continuer à jouer à moindre coût et de continuer, oui, à entretenir cette passion.
Mais c'est d'ailleurs, pour en revenir à Suicide Squad Kill the Justice League, désormais les serveurs ont été fermés, on peut y jouer en offline. Je sais qu'il fait partie, il a fait partie de l'offre PlayStation Plus. Je mettrai ma main au feu que c'est ce moment où plein de gens qui l'ont peut-être critiqué sans même y jouer vont le découvrir en se disant « Ah, finalement, c'était pas si mal !»
Tout plus que c'est un jeu qui peut parfaitement jouer en solo, c'était mon cas. En fait, toute la partie Game as a Service, je l'ai absolument pas exploré. J'ai joué seul avec mes trois compagnons IA qui m'ont accompagné tout au long du jeu sans que ça freine à quelconque moment mon expérience de jeu. Et sur la question, en tout cas, du futur du jeu vidéo, notamment de super-héros, je pense qu'on a toutes les raisons d'être inquiets du point de vue de l'industrie. On peut néanmoins noter que, des points de vue de DC Studios, qui est la reprise par James Gunn des films, il y a la volonté d'afficher une synergie entre les différents projets, les différents supports, du comics au film à la série et le jeu vidéo. Donc on peut que se montrer confiant, mais tant qu'il n'y a pas de production, c'est évidemment le fan qui parle et non pas l'expert. Je suis loin d'être expert en jeux vidéo. Cette volonté en tout cas affichée de créer des synergies, elle peut se vouloir rassurante en tant que fan, de faire des ponts entre encore une fois tous ces médiums, parce qu'une fois de plus, passer ces inquiétudes tout à fait légitimes, le fan en moi, qui a connu ces jeux Rocksteady, qui connaît quand même du coup de nombreux jeux Marvel de qualité. On l'a dit, Midnight Suns, Marvel Avengers dans une certaine mesure.
si, quand même, il y a des bons.
Marvel Guardians of the Galaxy, oui. Marvel Spider-Man, bientôt Wolverine. Il y a beaucoup de jeux, et on connaît un véritable nouvel âge d'or du jeu vidéo, et surtout du jeu vidéo qui n'est pas de l'adaptation de comic books, de dessins animés. Et de ce point de vue-là, moi je suis absolument conquis, j'ai tous les ans maintenant mes jeux. Donc gardons espoir, gardons espoir et lisons des BD, regardons des films, jouons aux jeux vidéo.
Exactement, et puis j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi des fois savoir identifier les responsables de quelque chose qui ne va pas. Le dernier Mortal Kombat a beaucoup de soucis vis-à-vis de ses fans. Derrière, il y a une grosse boîte qui s'appelle Warner. Suicide Squad, Kill the Justice League, derrière, il y a une grosse boîte qui s'appelle Warner. Peut-être que certaines décisions en coulisses expliquent peut-être cela. On retourne à mon édito. La créativité, des fois, c'est mieux que l'argent. Merci beaucoup, Thomas l'écrivain. Merci, Olivier Bénis. Merci, Hugo Perreo. J'aimerais remercier, évidemment, tous mes partenaires, mon Suicide Squad à moi, Charles de Silia, qui a réalisé cette émission. Une émission préparée par Lisiane Larbani et Manon Rax. Et à la technique, aujourd'hui, Mathias Alléon. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, comme d'habitude, ou en parler avec moi sur Instagram. Et vous pouvez d'ores et déjà écouter toutes nos émissions consacrées à la thématique de Superman en podcast sur l'application Radio France.
Task Force X, your mission is to kill the Justice League.